Trouvez facilement et rapidement les écoles primaires, secondaires, les lycées ou les universités qui enseignent le français et proposent des formations supérieures où le français a aussi sa place. C'est désormais possible car grâce à une nouvelle carte interactive du français. Participative, cette carte peut être complétée à tout moment par les enseignants qui souhaitent y faire figurer leur école ou les entreprises qui veulent y être répertoriées. Car si elle concerne en grande majorité le monde de l'enseignement, cette carte a aussi vocation à collecter les données de tous les acteurs qui ont un lien avec le français en République tchèque. Pour en parler, Anna Kubišta s'est adressée à Hanna Delalande, professeure de français à l'université Masaryk de Brno, et à Eric Pleyou, attaché de coopération pour le français à l'Institut français de Prague. Ils sont d'abord revenus sur la genèse de ce projet.
Culture sans frontières.
Donc je répondrai en expliquant le contexte plus large. Depuis quelques années, l'intérêt pour le français en République tchèque diminue en général, donc dans les écoles, dans les universités, dans les centres culturels. En automne 2020, nous avons décidé avec les associations SOUF, donc Association des professeurs de français du scolaire, et Gallica, Association des professeurs de français du supérieur, de préparer une enquête nationale auprès des enseignants pour faire un état de lieu, pour confirmer cette diminution ou non, peut-être identifier les besoins des professeurs quant à la situation de l'enseignement de français dans leurs établissements. Donc le questionnaire a été rempli par 276 enseignants. Ceux-ci, ils ont exprimé le souhait de coopérer plus au niveau local, d'être plus en contact avec leurs collègues enseignants, de mieux connaître la formation supérieure au niveau national. Et enfin, donc aussi connaître les éventuels futurs employeurs de leurs élèves, parce que ce sont des arguments qu'ils peuvent utiliser pour persuader les parents de choisir le français. Et donc, le projet même de la carte est de la coopération avec la SOUF Gallica, l'Institut français de Prague, le Centre universitaire de langue et la Chambre de commerce franco-tchèque. Pour l'idée cartographique donc, de l'outil, donc, cette idée est à l'Université Masaryk, quand une de nos étudiantes a eu l'idée de s'inspirer d'une carte déjà existante. Donc, c'est Mapanasiskovec, une carte du secteur non lucratif. Cette étudiante, Monica, elle fait maintenant partie de notre équipe de coordination.
Alors, quel est un petit peu le principe concret, en fait, de la carte, hein? Comment ça fonctionne? Mm-hmm. Évidemment, au bas de la retranscription de cet entretien, il y aura un lien. Mais peut-être, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu comment ça fonctionne?
Donc, le principe de la carte, donc, c'est tout d'abord une base de données qui est accessible à tous, avec tous les acteurs du français en République tchèque. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas encore. C'est aussi un outil de localisation qui permettra de retrouver toutes les entités liées au français, par exemple dans un périmètre de 50 km. C'est aussi un outil de mutualisation, de synergie, parce que nous avons réussi à réunir les acteurs majeurs qui ont intérêt dans la promotion du français en République tchèque. Et donc les acteurs, ce sont les écoles primaires et secondaires, les programmes d'études universitaires, le double diplôme franco-tchèque universitaire, les centres de langue universitaire, et bien sûr l'Institut français de Prague, les alliances françaises, le centre français, le club franco-tchèque, et enfin les entreprises ou les institutions tchèques, françaises, internationales qui ont besoin de salariés qui parlent français.
Comment est-ce que vous avez collecté toutes ces données et est-ce qu'elles sont complètes? J'imagine quand même qu'il y a une vocation à être remplie et complétée au fur et à mesure. Hein.
La base de données n'est pas encore complète, mais ça va se compléter au fur et à mesure. Donc, une partie des données est collectée de façon centralisée. Donc, par exemple, ce sont les programmes d'études universitaires par Gallica, ou la double diplôme par le service de coopération scientifique universitaire de l'IFP, ou les entreprises. Donc, on a reçu un export de 240 entreprises membres de la Chambre du commerce franco-tchèque. Toutes les autres données, donc elles sont réunies par le biais d'un questionnaire de collecte de données en ligne qui est disponible sur notre site web. Ce questionnaire, donc, il a été vraiment créé pour collecter les données des établissements scolaires, des centres universitaires et des entreprises. Donc, la personne qui est responsable de l'école ou du centre ou de l'entreprise peut remplir le formulaire, mettre les informations qu'elle souhaite faire apparaître dans la carte et valider une petite proclamation RGPD à la fin. Ben, en ce moment, on a 162 établissements scolaires inscrits. Donc, on pense que c'est à peu près un quart de tout ce qui existe, que de toutes les écoles. Nous essayons de faire des appels réguliers donc, sur les réseaux sociaux grâce à l'Institut français, la SOUF, mais avec les alliances françaises, mais on essaye aussi maintenant de coopérer plus avec le département d'enseignement ou le département d'éducation des institutions régionales et municipales pour vraiment se faire connaître.
Vous l'avez un petit peu dit au début, mais peut-être qu'on pourrait un peu plus détailler quelles sont les personnes justement ciblées par le projet.
La cible principale, ce sont les enseignants de français, parce que la carte, elle est faite pour eux, comme une boîte à outils où ils pourront trouver toutes les informations dont ils ont besoin. Mais par conséquent, les autres personnes ciblées, ce sont les élèves, les étudiants, leurs parents, la direction des établissements scolaires. Mais on peut dire que, en fait, il n'y a pas de limite de personnes qui peuvent se servir de la carte, parce que ça peut être les alliances françaises, les universités, parce qu'il sera comme ça plus facile à identifier à les écoles pour faire la présentation ou la leçon de motivation ou organiser des activités extrascolaires, justement grâce à la participation des étudiants des universités, par exemple.
Peut-être, Éric Playou, on connaît la prééminence de l'anglais hein, comme langue mondiale de communication dans la plupart des domaines. Le français a longtemps eu cette place-là hein, dans le passé. Et les pays tchèques ont une tradition importante hein, quand même de francophilie et de francophonie. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là aujourd'hui en République tchèque? Peut-être quelle est la place du français dans l'enseignement tchèque dès le plus jeune âge et peut-être aussi quelle est un peu la vision justement de la France et de sa culture et comment est-ce que ça se répercute peut-être sur le choix ou non d'étudier le français en Tchéquie?
Bon, on ne peut plus comparer aujourd'hui le français et l'anglais. L'anglais est sans conteste la langue mondiale, elle s'est imposée, c'est la langue de communication mondiale. Le français n'est pas dans un rapport de concurrence, il est dans un rapport éventuellement de complémentarité. L'âge d'or du français, c'était au XVIIIe siècle, nous sommes au XXIe, donc je pense qu'on peut pas, on peut pas, on n'a pas de nostalgie à avoir, on est dans un autre monde, dans une autre époque. Il n'empêche que le français garde de nombreux atouts. D'abord, c'est une langue de diffusion mondiale. Il faut le rappeler, il y a 300 millions de locuteurs dans le monde en 2018 et certaines prévisions parlent de 750 millions à l'horizon 2070, en partie dû à la grande croissance démographique en Afrique, qui est effectivement un gisement de francophonie très important. Donc, sa puissance mondiale risque, en tout cas en termes de locuteurs, risque fort d'augmenter dans les décennies à venir. Il est d'autre part la deuxième langue parlée dans l'espace européen après l'allemand, il faut quand même le savoir. 12% des citoyens européens, et la République tchèque et la France sont dans un espace politique commun, qui est l'Union européenne, 12% des citoyens européens parlent le français, 16% l'allemand, mais l'anglais c'était 13%. Avant le Brexit, depuis qu'il y a le Brexit, évidemment, c'est diminué à 2%. Ça n'empêche que l'anglais reste une langue de communication mondiale et la langue la plus apprise, mais c'est aussi important de savoir, en tout cas pour les citoyens tchèques, que 12% des citoyens européens sont des citoyens francophones. Dans les systèmes éducatifs de l'Union européenne, le français est aussi très bien placé. Hein, si l'anglais est appris par les élèves dans l'espace de l'Union européenne, hein, par 98% des élèves, hein, comme langue vivante 1, 26,1% des élèves choisissent le français au premier cycle de l'enseignement secondaire, 19-40% le choisissent au lycée, contre 18% pour l'allemand et 17% pour l'espagnol. Donc le français, pour être clair, est la deuxième langue vivante apprise par les Européens. C'est quand même un élément important, puisque finalement le français est une langue de communication entre les Européens. Voilà.
Est-ce que cette place est aussi celle du français en Tchéquie, du coup ?
Alors, pas du tout. Et justement, peut-être que là, il y a peut-être des progrès à faire. Alors, dans le système éducatif tchèque, l'apprentissage du français a beaucoup baissé ces 10 dernières années. Il occupe la 5e place, hein, disons-le clairement, aussi bien au primaire que dans le secondaire. Derrière, bien entendu, l'anglais, l'allemand, puis le russe, puis l'espagnol. Donc, effectivement, il a fortement reculé. Ce qui ne correspond pas à l'évolution qu'il suit dans les autres systèmes éducatifs de l'Union européenne. Enfin, sans généraliser, ça dépend de quel pays on parle. Hein. Alors, 5e place, dans l'enseignement primaire, il y a moins de 1% des élèves qui l'apprennent, ce qui est quand même très faible dans l'enseignement primaire. Dans le secondaire, on est à 4,5%. Hein. Bon, donc ça reste quand même une place modeste. Et l'objectif finalement d'un échange comme celui-ci, c'est de donner des arguments pour qu'il retrouve une place quand même plus importante et peut-être qu'il correspond plus à son poids réel. Mais bon, tout ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'informations.
D'une certaine façon, on pourrait dire que la notion d'utilité, qu'on approuve ou pas, hein, mais c'est un peu la réalité actuelle, dans les études a pris une place importante. Hein, par exemple, quand on prend une décision, qu'est-ce qu'on va étudier plus tard pour avoir quel travail, quel emploi plus tard. Peut-être, comment montrer qu'apprendre le français peut aussi être utile pour un futur emploi ? Est-ce qu'il y a des arguments justement à amener peut-être aux jeunes et aux parents, puisque en fait, c'est souvent quand même les parents qui, derrière, peuvent pousser les jeunes à prendre telle ou telle matière en cours.
Vous avez tout à fait raison, effectivement. Alors, il y a des arguments qu'on peut faire valoir et qu'il faut faire valoir. D'abord, le français est une langue qui permet de faire des études supérieures en France. Il y a un excellent système d'enseignement supérieur en France qui est pratiquement gratuit. Enfin, les coûts sont modiques. Rappelons quand même que la France est le 5e pays au monde pour l'accueil d'étudiants étrangers. Donc, c'est déjà un élément important. Il y a par ailleurs des bourses d'études offertes par l'Institut français, l'ambassade de France, mais plutôt au niveau master. Bon, sur le plan plus économique, l'employabilité des jeunes en apprenant le français. Bon, il faut quand même rappeler que la France est la deuxième puissance économique européenne en termes de PIB. En République tchèque, il y a des éléments importants qui ne sont pas forcément très connus. Par exemple, la France est le 4e client de la République tchèque. Ça veut dire que des entreprises tchèques qui veulent vendre en France, eh bien, elles ont là un client important. Et donc, c'est leur intérêt aussi d'avoir des gens qui parlent français, parce que ça sera plus facile pour emporter un marché de parler le français à des Français que de le faire dans une autre langue. L'anglais est possible, mais ce sera certainement un meilleur résultat, un résultat plus sûr avec le français. Autre point qui est pas souvent connu, la France est le 3e investisseur en République tchèque. C'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup d'argent, plus de 10 milliards d'euros qui sont investis par des entreprises françaises en République tchèque. Donc ça, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses. 471 filiales d'entreprises françaises qui emploient plus de 60 000 personnes en République tchèque. 471 filiales, donc j'insiste sur les chiffres, parce que souvent, c'est pas connu ou c'est peu connu. 60 000 personnes qui sont employées, ce sont des chiffres qui sont conséquents, qui sont importants. Donc, je dirais, cette dimension d'employabilité en faveur du français n'est pas assez connue. Et souvent, on pense que parce que l'anglais a pris la première place comme les langues étrangères, le français est en déclin, on n'en a plus besoin. Mais c'est faux. En réalité, le français est une langue de l'emploi très importante en République tchèque avec des perspectives. Il y a de nombreuses entreprises internationales également, et ça c'est Anna qui me l'a bien souligné, qui ont besoin de francophones. Alors prenons un exemple qu'elle m'a donné, IBM, hein, entreprise multinationale, a besoin de francophones. Zebra, Gardner, Denver, la langue de l'entreprise c'est bien l'anglais, mais les travailleurs francophones travaillent dans des équipes qui s'occupent des clients en français. Donc là aussi, il n'y a pas que les entreprises françaises, il y a aussi des entreprises internationales qui visent le marché francophone. Parfois, le marché francophone, c'est pas forcément la France. Je parlais de l'Afrique. On sait qu'en Chine, il y a une explosion d'apprentissage du français. Pourquoi? Parce que les Chinois investissent énormément en Afrique. Et donc, ils ont besoin de communiquer dans une langue. Et dans les pays africains qui sont francophones, eh bien, c'est le français qui est la langue de l'emploi. Donc, il faut avoir cette dimension d'un marché très, très large qu'offre la langue française.
Mmh.
Donc, il faut sortir du cliché de la langue française qui est apprise pour sa beauté. Pourquoi pas? Mais c'est aussi une langue utile. Il faut sortir du cliché de l'inutilité de la langue française.
Peut-être, est-ce qu'on pourrait donner un exemple concret, un exemple type, un peu quelqu'un qui vient consulter votre carte, que va-t-il, que va-t-elle y trouver, comment peut-il se repérer, comment chercher les renseignements nécessaires?
Donc, on peut donner deux exemples, peut-être un exemple d'un professeur, d'un enseignant de français dans une école, un autre exemple d'un lycéen qui se prépare pour le baccalauréat. Donc, dans l'exemple de, prenons un exemple d'un enseignant, par exemple, de l'école primaire à Brno. Donc, cette personne arrive sur la carte à partir du lien qui est accessible sur le site web de projet. Donc, c'est mappa-francouchini.cz. Et sur la page d'accueil de la carte, la personne va trouver une carte de République tchèque avec des points de couleurs différentes. Et elle trouvera aussi un champ de recherche dans la barre à gauche où elle peut entrer à la ville. Sa ville, en fait, décidait de périmètre de recherche entre 1 km jusqu'à 200 km. Donc, dans notre exemple, nous allons faire une recherche dans le périmètre de 25 km à partir de l'adresse donnée. Et cette personne, donc, elle est redirigée sur la page des résultats qui sont visibles, donc, à la fois sur la carte, mais aussi dans la barre à gauche où, en fait, la personne ou l'enseignant peut consulter la médaille longue, le profil de chaque entité qui est inscrite sur la carte. Donc, il y a, je parlais de code couleur, donc il y a des points rouges. Donc, soit c'est l'Institut français de Prague, où ce sont les alliances françaises. Il y a le point bleu, ce sont les écoles primaires et secondaires. Le point jaune, les universités. Le point rose, donc ça serait des centres français ou des clubs franco-tchèques. Et le point vert, ce sont les entreprises. Donc, il est possible de consulter toutes les informations en lisant le profil des écoles ou des entreprises ou des alliances, etc. Donc, cet enseignant de français pourrait voir que dans ses environs, donc dans l'exemple de Brno, donc pour l'instant, nous avons 20 écoles, 25 programmes universitaires, des doubles diplômes, des centres de langue universitaire et 15 entreprises. Donc, bien sûr, ces données vont encore évoluer. L'enseignant peut lire les informations données, décider de contacter une autre école pour peut-être coopérer ou présenter les écoles secondaires dans lesquelles les élèves peuvent continuer ou discuter avec les élèves des possibilités des études supérieures ou emploi éventuel. Et donc, le deuxième exemple, donc, un lycéen qui se prépare pour son baccalauréat, donc il commence à réfléchir aux études supérieures. Donc, il peut également faire la recherche à partir de sa ville, mais peut-être augmenter le périmètre de recherche, ou il peut chercher directement la ville universitaire qui l'intéresse. Donc, si on reste dans l'exemple de Brno, donc il peut consulter les 25 entrées, les 25 points jaunes des universitaires. Et donc, il va trouver des programmes d'études en français comme classique, donc comme études de langue, littérature, de l'enseignement. Mais il y a donc aussi les études en français de spécialité, un peu plus en économie. Il lui sera proposé des programmes en master, en licence, en master et en doctorat. Donc, il y a aussi le double diplôme. Donc, à l'Université Masaryk, on a un master franco-tchèque d'administration publique où il y a un master en communication plurilingue interculturelle en situation francophone ou en philologie romane. Mais au niveau national, les disciplines sont beaucoup plus variées parce que le double diplôme, on peut les étudier en chimie, en gestion, en finance, en sciences politiques, en agronomie, en ingénierie de nucléaire ou automobile. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus large que juste le français. Et il y a donc aussi la liste des doctorats, mais ça va probablement pas encore intéresser notre lycéen. Par contre, ce qui peut l'intéresser, ce sont les centres de langue universitaire qui sont présents dans les facultés et universités différentes et qui proposent des cours de français général ou spécifiques pour la spécialisation de la faculté. Donc, ça peut être la faculté d'informatique, la faculté d'économie, la faculté de droit, des sciences sociales, des sciences naturelles. Mais il y a aussi université technique ou à Brno, université de défense ou la faculté de théâtre de l'Académie Jana Čech. Donc, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, cet élève peut continuer à étudier le français à l'université, même s'il ne souhaite pas devenir enseignant ou spécialiste en littérature ou interprète. Et il peut devenir, par exemple, avocat avec une compétence en français de droit ou une informaticienne parfaitement bilingue anglais-français et faire des stages dans des entreprises déjà pendant les études. Et donc, si on parle d'entreprise, il y a aussi la liste des entreprises pour trouver un travail à mi-temps ou avoir un petit stage.
Oui, l'idée, c'est aussi d'avoir des profils un peu multidisciplinaires, voilà, avec ces atouts linguistiques. En plus, la carte vient juste d'être lancée. Comment est-ce que vous allez évaluer peut-être son efficacité sur le long terme? Et bon, évidemment, vous disiez, ça a vocation à évoluer et à être complétée au fil du temps. Hein.
Donc, avant de voir sur le long terme, en fait, nous avons déjà des retours positifs depuis le lancement, donc à court terme. Nous avons déjà quelques retours des écoles où il y a des enseignants qui informent sur le projet sur le site web de leur école, où ils nous ont envoyé des photos de la présentation et de l'utilisation de la carte dans leur classe de français. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Et nous avons aussi des entreprises qui nous contactent pour être ajoutées à la base. Et concernant le long terme, donc je pense que nous pourrons évaluer l'efficacité de la carte selon la coopération qui vont se créer dans le futur entre les écoles et les entreprises ou les écoles et les universités. Ensuite, peut-être quand nous allons demander aux nouveaux inscrits à l'université comment ils ont appris sur nos programmes d'études, ils vont peut-être un jour nous dire qu'ils ont choisi leur lycée ou leur programme d'études universitaires grâce à la carte. Qui sait?
Éric Playou, peut-être un dernier mot?
Oui, en tout cas, la carte aussi a cet intérêt, c'est qu'elle permet de faire montrer qu'il y a un continuum éducatif, hein, du primaire jusqu'à l'universitaire et même jusqu'à l'emploi, en apprenant la langue française. Donc ça, c'est un élément très très important que fait valoir la carte. La carte peut être finalement, pas simplement un outil d'information, je dirais un outil de promotion du français. Elle informe, mais en même temps, elle met des liens avec les études supérieures, des liens avec les entreprises, et donc, quelque part, elle argumente en faveur de l'apprentissage du français. Donc, c'est une très belle initiative, et bravo à Anna et à toute son équipe autour d'elle, et à la faculté de pédagogie de l'Université de Masaryk pour cette belle initiative.